France Inter. Laetitia Gaillet. Le 5-7.
Bonjour Anthony Huard.
Bonjour Laetitia Gaillet.
Anthony Huard, psychologue, psychanalyste, vous publiez Freud et les super-héros. Alors le film The Batman de Matt Reeves est sorti dans les salles cette semaine. On y découvre un super-héros très noir qui n'est plus Bruce Wayne mais qui se vit en Batman. Et votre livre, Anthony Huard, est un énorme écho à tout cela parce que vous faites le tour de la planète des super-héros. Vous les analysez, qui ils sont, d'où ils viennent. On comprend à travers votre livre qu'ils sont finalement assez proches de nous, pauvres mortels. Alors tout le monde n'est pas au fait de ce que sont les super-héros, de leurs pouvoirs. Et avant de rentrer dans la tête justement de ces super-héros, moi je voudrais comprendre avec vous, Anthony Huard, d'où vient cette réflexion. Vous avez lu des comics, vous avez vu des films, des séries, et à quel moment vous vous dites « c'est une évidence, ces gens n'ont pas que des super-pouvoirs ».
Oui, alors comme tout personnage en effet d'une narration, quand on commence à les lire, forcément on les lit pour le côté spectaculaire hein, des super-héros, leurs pouvoirs, il y a forcément un côté fascinant chez ces personnages. Et tout d'un coup on s'aperçoit en les lisant et en écoutant un peu leur écho un peu plus intime qu'il y a une part d'eux qui nous parle, voilà, qui nous parle de façon très profonde. Et à ce moment-là, on peut s'interroger pourquoi ces super-héros, hein, qui sont pourtant très éloigné de nous avec ses pouvoirs et ses costumes, se mettent à nous parler de façon beaucoup plus intime qu'on ne pense. Et à ce moment-là, on peut s'interroger sur ce qui les constitue profondément, en fait, ces personnages.
Alors, vous dites, il y a une part qui nous interroge. Par exemple, dans ce qu'on découvre dans votre livre, et que certains savent d'ailleurs, mais la plupart des super-héros sont orphelins. Superman orphelin, Batman orphelin, Daredevil orphelin. Ils construisent leur histoire sur un trauma original. Cette histoire-là de la famille.
Voilà, tout à fait. Déjà, ça fait en effet un point commun qu'on retrouve chez plusieurs super-héros. Voilà, se demander pourquoi hein, des super-héros seraient orphelins. Et ils ont ça en commun avec nous, hein, qu'ils ont, comme vous dites, ce trauma originel et en tout cas cette perte de départ. Hein. C'est-à-dire que, contrairement à ce que leur pouvoir pourrait laisser penser, ce sont des êtres, des personnages qui sont animés d'abord par quelque chose de l'ordre de la perte, hein, de la chute. Et donc, tout l'intérêt du super-héros va consister à savoir comment il se relève. Hein. Et d'ailleurs, c'est une réplique hein, qui revient des fois dans Batman. Hein, pourquoi on tombe ? Il y a le père de Bruce Wayne qui lui dit pour mieux se relever hein, dans la trilogie de Nolan. Et en effet, c'est super personnages, quelque part, ont ce trait qui nous rejoint, en fait, hein, cette chute, cette perte originelle, et avec laquelle on va devoir se reconstituer, quelque part, comme individu.
Et ils ont aussi, alors, des phobies. Et ça, vous le notez beaucoup. Bruce Wayne, qui a peur des chauves-souris, mais qui est l'homme chauve-souris. Daredevil, le super-héros aveugle, qui a finalement peur d'avoir peur. Qu'est-ce que disent les phobies, en fait, chez ces personnages-là et en retranscription pour nous?
Alors, ça les rapproche beaucoup de nous. Hein, parce qu'en effet, le fait de les éclairer par ce biais-là, hein, de la phobie, de la peur, ça montre en effet qu'ils sont beaucoup plus proches de nous qu'on ne le pense. Puisqu'en effet, ce qui nous constitue au départ comme sujet, comme être humain, c'est d'abord la peur. C'est-à-dire chacun apprend à gérer sa peur originelle, ses angoisses et comment on compose avec ça. Et finalement, une fois qu'on commence à éclairer les super-héros par ce biais-là, hein, c'est un peu prendre le contre-pied. Hein, puisque même Daredevil est d'ailleurs surnommé l'homme sans peur. Et une fois qu'on se rend compte que cette sorte de mantra, finalement, c'est une façon de masquer la peur, hein, comme Batman, finalement, est un personnage qui apparaît comme n'avoir peur de rien, de contrôler son environnement, une fois qu'on s'aperçoit que c'est la peur qui est au fondement même du personnage, là aussi, ça rejoint quelque chose de très intime en nous, hein, et ça montre comment il se rapproche de nous de façon évidente à ce moment-là.
Finalement, est-ce qu'on peut dire que le super-héros, c'est un homme comme les autres ?
Oui, voilà, c'est ça. C'est un homme comme les autres et c'est un homme à la rigueur super comme les autres. C'est-à-dire, il montre de façon extrême, en fait, ce qui nous constitue, nos travers, nos craintes, nos angoisses, nos phobies, nos névroses, en fait. Hein, il les montre de façon extrêmement aiguë.
Alors, vous abordez aussi alors la question de la sexualité des super-héros. J'avoue, je me suis jamais penchée sur la question. Et j'ai été surprise, en fait, de découvrir, et j'avais pas fait gaffe, mais Batman et Daredevil ont, par exemple, du mal avec l'autre sexe. C'est quoi leur problème ?
Ah, bien oui. Alors ça, c'est une question, en effet, qui revient souvent hein, dans les comics, et d'ailleurs aussi chez les lecteurs de comics ou ceux qui s'intéressent aux super-héros, de savoir quelle est la part de sexualité. Parce que souvent, c'est quelque chose qui est plutôt, là aussi, masqué, hein, la part de sexualité. Un peu comme chez l'enfant, la part de sexualité est masquée. C'est-à-dire que si on ne met pas un petit peu le projecteur au bon endroit, on pourrait penser, chez le super-héros, comme chez le jeune enfant, qu'il n'y a aucune part de sexualité. Or, c'est une sexualité, mais qui est déguisée, voilà, qui est qui prend une autre forme. Et en effet, le rapport de Batman et de Daredevil, notamment, à l'autre sexe, montre bien cette part difficile et complexe. Et là où ça rejoint notre rapport aussi adulte à l'autre sexe, c'est que ça illustre le fait que ça ne va pas de soi, le rapport à l'autre, en fait. Et même chez les super-héros, ça ne va pas de soi, et encore moins peut-être chez eux que chez nous.
Vous dites, ils incarnent, alors, ils ne sont pas non seulement des êtres épanouis et lumineux, ils incarnent aussi nos parts sombres, ils sont tourmentés, mélancoliques. C'est des gens assez tristes, les super-héros.
Oui, mais en même temps, c'est ça qui est génial. Voilà, parce que s'ils étaient sans cesse lumineux, sans cesse idéalistes, sans cesse dans la réussite, ils nous écraseraient, en fait, ces super-personnages. Alors que là, on les retrouve sombres, mélancoliques, tourmentés, un peu comme nous. Et donc, du coup, ils ne sont pas écrasants par rapport à ce que nous sommes. Au contraire, on peut, encore une fois, s'y retrouver. Et c'est plutôt intéressant de les voir beaucoup plus contrastés hein, que sous le jour un peu univoque qui serait de les voir sous un seul biais.
Alors, on les voit super-héros. Il y a aussi les femmes là-dedans qui sont arrivées plus tard, enfin pas tant que ça avec Wonder Woman, mais qui arrivent plus tard. Mais qu'est-ce qu'elles apportent ? Parce qu'au départ, moi, ce que je dis dans votre livre, c'est qu'elles ont des super-pouvoirs d'une manière invisible, comme si la femme était mal placée. Enfin, en fait, la femme de l'époque est la femme et la super-héroïne.
Voilà, c'est ça. Et là, c'est intéressant parce que ça dit aussi ce que la société pouvait raconter de la femme à l'époque, hein, c'est-à-dire comment elle pouvait exister en tant qu'être humain, et notamment la femme invisible. En effet, c'est assez génial pour ça, puisque là où on parle des fois de l'invisibilité de la femme sur le plan même psychique, hein, c'est-à-dire même pour les psychanalystes, c'est resté longtemps obscur, cette question du féminin. Et là, tout d'un coup, on a un personnage qui s'appelle carrément la femme invisible. Voilà. Et ça illustre en effet cette part un peu obscure hein, pour l'homme et même pour la femme hein, de ce qu'est le féminin. Et donc ces personnages vont raconter une autre part de l'être humain. Hein, et on pourrait penser que finalement les super-héros et les super-héroïnes sont équivalents. Et en fait non, les super-héroïnes nous racontent un peu une histoire un peu différente. Voilà, qui résonne aussi bien chez les hommes que chez les femmes d'ailleurs, mais qui va montrer une différence. Et c'est ça qui va être assez assez génial en fait aussi chez elles.
Alors on l'a dit, il y a un trauma, il y a des phobies, il y a des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent le bien alors qu'ils ont subi des traumatismes et qu'ils pourraient ne pas le dépasser et devenir mauvais ?
Eh bien, je pense que finalement, ils le choisissent parce que c'est, on pourrait dire que c'est un peu leur symptôme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui les amène à choisir ça. C'est pas forcément quelque chose de très décidé sur le moment, mais un peu comme nous, c'est-à-dire eux-mêmes, les super-héros ont des modèles. Hein, c'est-à-dire que Superman a un modèle qui est son père, Batman a ce modèle idéalisé qui est son propre père qui est mort brutalement.
Ils ont des gros problèmes avec leur père. Hein.
Voilà. Donc voilà, souvent avec leur père. Et donc, mais malgré tout, ça constitue, comme chez chacun de nous, un idéal qui les hisse vers le haut, hein, qui les élève et les amène à avoir une forme d'idéal et de morale aussi par rapport au monde extérieur.
Merci beaucoup Anthony Huard, j'avais plein de questions sur Hulk et le monstre et X-Men et les adolescents. C'est à lire justement, Freud et les super-héros, lisez-le, c'est particulièrement intéressant et c'est aux éditions de L'Opportun. Merci à vous.
Merci à vous. France Inter.